10h23 de retour dans Trudeau Landry sur les ondes du réseau Cogeco. Quand même, Jérôme, une nouvelle de dernière heure importante.
Oui.
C'est la santé publique, le gouvernement. On parlait justement que des fois, on a de la misère à faire la distinction entre les deux. Mais bref, on annonce que la fameuse période de quarantaine, qui est de 14 jours, la période d'isolement, donc pour les cas de COVID-19 confirmés, va être ramenée à 10 jours. En fait, est ramenée à 10 jours à partir de l'apparition des premiers symptômes. On nous dit qu'avec l'évolution des connaissances, ça permet de raccourcir la durée d'isolement pour les personnes atteintes, mais qu'il faut s'assurer de répondre aux autres critères tels que l'absence de symptômes depuis 24 heures et de fièvre depuis 48 heures. C'est le docteur Arruda qui a annoncé ça.
Ça s'applique pas au voyage, là. Faut pas confondre ça.
C'est ça, c'est les cas de COVID.
Si quelqu'un part en voyage à Cancun, c'est encore 14 jours de confinement au retour. Là.
Exactement.
De quarantaine.
Parallèlement à ça, évidemment, on en parlait en ouverture d'émission. Ce qui fait beaucoup réagir, c'est cette annonce du gouvernement, le fait qu'on vient retenir, empêcher les sports scolaires. On dit sport aussi, hein, mais c'est un des éléments que je vais aborder avec notre invité, c'est le fait que c'est pas juste les sports aussi. Hein. Il y a d'autres activités dans le parascolaire. Bref, les impacts que ça a sur les jeunes. On va en discuter avec une pédiatre, la docteure Valérie Labbé, qui est pédiatre à l'Hôtel Dieu de Lévis, qu'on rejoint avec plaisir. Docteur Labbé, bonjour.
Oui, bonjour Jonathan.
J'ai parlé en ouverture d'émission avec Jérôme du concept de balance des inconvénients. Donc, on nous a beaucoup parlé pendant le confinement, pendant la pandémie. Et là, j'ai comme l'impression que dans ce cas-ci, ce critère-là a pas été pris en compte, ou en tout cas pas de façon optimale, parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup d'inconvénients à empêcher des jeunes de faire leur sport en milieu scolaire, non?
Ben tout à fait. En fait, ça en a pris plusieurs par surprise, y compris moi, nous, la communauté médicale. Là, on s'y attendait pas à ça. Puis hier, je regardais là, juste, je suis sur des groupes de médecins, puis tout ça, puis tout le monde semblait unanime et déçu là, de cette décision ministérielle-là. Pourquoi ça a eu lieu? Ben là, on se met peut-être un petit peu dans la peau du ministre, puis on se dit qu'il doit avoir un courant de peur aussi de la part des enseignants, de plusieurs personnes, même de parents. Alors, ça ne doit pas être facile à gérer, hein, comme plusieurs le disent, et on ne voudrait pas avoir à prendre ces décisions-là. Bref, la décision a été prise, mais ça nous fait quelque chose, ça nous fait réagir, parce que, dans le fond, nous autres, ce qu'on aurait aimé comme pédiatre, comme gens qui voulons la bonne santé des enfants, c'est même qu'il y en ait plus de sport encore à l'école.
Eh oui.
Alors que ça soit retiré, ça va évidemment à l'encontre de notre souhait de base.
Le fameux concept de la bulle de classe, docteur Labbé, vous pensez c'est quoi de ça? Parce que tout le monde constate que, bon, oui, il y a une bulle entre 8 heures le matin et 3 heures l'après-midi, mais quand les enfants arrivent à la maison, ils vont jouer avec leurs amis, ils vont faire des sports en fin de semaine. Vous pensez quoi, vous, de ça, de ce concept-là?
En fait, il fallait faire des règles. J'aurais pas voulu être celle qui les fasse, parce qu'évidemment, ça allait pas plaire à tout le monde, puis ça allait déplaire quasi à tout le monde, justement, aussi. Il fallait faire des règles. Cette règle-là a été choisie, la bulle classe. Il faut savoir que, tu sais, comme à Montréal, l'école n'avait pas été reprise, c'est comme au mois de mai, puis tout ça. Là, eux autres, ils ont vécu beaucoup plus fortement que nous la crise du COVID. Oui. Ils ont vu des gens qui ont été malades, puis tout ça. Fait que la peur, elle est très, très grande là, dans la région de Montréal. Malheureusement, elle n'a pas de limite géographique. Elle est un petit peu partout aussi là, dans la province. Nous, on a été moins touchés dans la région de Québec, Chaudière-Appalaches. On a repris les classes, ça s'est bien passé. Oui. On a les camps de vacances, ça s'est bien passé aussi. Fait que on aurait souhaité peut-être avoir un petit peu plus de liberté. Par contre, il fallait statuer sur quelque chose. Puis la bulle classe a été prise là en considération. C'est sûr que c'est incohérent avec le reste de la vie, et il y a beaucoup d'incohérences là actuellement. Alors il faut vivre un peu avec ça en se disant écoutez, on fait notre possible, puis tout le monde y met du sien, mais c'est sûr que ça fait pas de sens au niveau de notre logique rationnelle.
Quand on parle du sport-études, on fait souvent le lien avec la motivation. Puis on lisait encore dans les journaux ce matin des jeunes.
Oui.
Qui disent, mais moi, c'est ma motivation, c'est ce qui me permet de rester accroché. Il y a cet aspect-là qui est important, mais j'apporterais peut-être la nuance aussi, puis je vais vous entendre là-dessus, sur carrément la disposition favorable dans laquelle ça peut mettre les élèves, juste au niveau physique, au niveau mental,
tu sais,
la motivation, mais aussi d'évacuer ceux qui ont des troubles d'attention.
Oui.
Ils ont besoin de ça pour être capables, après ça, de se concentrer en classe.
Oui. Encore un petit peu plus chez les garçons, mais on veut pas généraliser, là, mais on sait que les garçons, de base, ont ce besoin-là de bouger là davantage un peu que les filles, malgré que c'est bon l'exercice physique pour tout le monde c'est bon, le sport, vraiment, mais en particulier chez nos garçons, ceux qu'on a étiquetés le TDAH, ils en ont besoin là, de se dépenser, ça les aide après ça au niveau de la concentration. De ce que j'ai compris, c'est que les cours d'éducation physique, quand ils dans la même classe bulle, peuvent avoir lieu. Ce sont les activités parascolaires là, qui ont été retirées là, pour le moment. Mais effectivement, c'est une grande source de motivation pour beaucoup, beaucoup de nos étudiants, en particulier nos garçons.
Je reviens sur ce que vous avez dit il y a quelques secondes, Dr. Labbé. Vous avez parlé de la peur. Ça m'est resté dans la tête quand vous avez dit
oui.
Ça. Mais ça n'a pas de sens qu'on gère en lien avec la peur. Faut gérer, surtout quand il y a une question de nos enfants, faut gérer sur la base de données réelles, de données scientifiques et non avec une émotion qui est la peur.
Ça n'a
pas de bon sens.
La peur vient prendre beaucoup de place. Et
ça
même
pas de
dans
sens.
Les groupes de médecins où je suis, tu sais, comme le courant actuel qui passe, c'est vraiment le soyons le plus prudent possible. Et il n'y a pas d'autres discours qui qui combattent ça. On dirait que personne ose un peu aller à l'encontre de ça.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, écoutez, moi, comme personne, personnellement, je suis pas une personne très anxieuse là à la base. Moi, je me fie à qu'est-ce qui se passe là présentement. Vous savez, nous autres, à notre hôpital là à Lévis, on a eu zéro cas d'enfants hospitalisés ou qui avaient besoin d'hospitalisation pour le COVID là, depuis le début, là, depuis mars. Pendant tout l'été, je crois qu'il y a eu une seule personne ou peut-être deux qui ont été hospitalisés chez les adultes, mais aucune aux soins intensifs dans notre hôpital à Lévis. L'hôpital dédié pour les enfants était le CHUL. Ils ont eu zéro cas aux soins intensifs. Vraiment très, très peu de cas. Moi, de ce que je suis au courant, là, c'est un ou deux, mais peut-être qu'il y en a eu plus, là. Je veux pas. Mais bref, très, très peu de cas d'enfants hospitalisés. Alors, si on parle, c'est comme on se fixe vraiment juste sur les enfants. Moi, j'ai pas peur là, pour nos enfants. Je pense que la rentrée va bien aller et que on aurait pu poursuivre le sport le parascolaire là sans trop se tromper. Par contre, c'est ça, c'est pas nous autres qui décidons là. Ils sont conseillés, ces gens-là qui prennent les décisions. Mmh. Et à un moment donné, comme vous disiez tout à l'heure, il y a entre la santé publique et la politique, parfois, c'est ça, là, c'est mince, là.
Mais je suis curieux de vous entendre parce que je vais rester dans le filon des craintes et des peurs parce que on vient de parler des craintes qu'on a eues pour la santé physique de nos jeunes qui des fois sont peut-être trop grandes ou exagérées. Qu'en est-il des craintes sur la santé psychologique? Parce que ça aussi, on s'en est beaucoup fait, on s'est beaucoup questionné
en fait,
là-dessus.
Moi,
est-ce qu'on
c'est
voit des changements?
Que je veux qu'on porte le plus d'attention justement parce que on a sorti beaucoup de statistiques par rapport à la santé physique, hein, les hospitalisations. Les cas de COVID positifs, tout ça. Mais pour ce qui est de parler de la santé mentale, oui, on en a parlé, oui, on en entend parler, mais c'est beaucoup moins facile à objectiver. Hein? Et puis, tu sais, comme le cas d'anxiété, il est anxieux comment, tu sais, comme ça. Ça, c'est pas dénombré dans nos statistiques, mais on sait que c'est présent et que depuis la pandémie, elle existait déjà avant chez nos enfants avec des troubles d'anxiété, TDAH, troubles d'opposition, troubles de comportement. Et avec le confinement, c'est que là, beaucoup dans l'anxiété, là, ça l'a augmenté de façon considérable.
Ah oui?
Oui, mais aussi, tu sais, c'est parce que là, c'est dans toutes les sphères, tu sais, c'est pas juste les enfants, mais les parents aussi,
ouais.
Puis tout le monde. Il y a eu beaucoup de peur véhiculée avec le COVID, puis c'était correct parce qu'on devait, tu sais, comme apprendre à le connaître, s'organiser. Maintenant qu'on est organisé, qu'on est prêt, je pense que on doit garder en tête que l'objectif, ce n'est pas d'avoir zéro cas de COVID, parce qu'à ce moment-là, on va devoir encore une fois tout arrêter, mais de vivre, d'apprendre à vivre avec ce nouveau virus-là, puis C'est ça. Pour l'instant, il y a des mesures qui sont mises en place qu'on doit respecter et qu'on devra reviser souvent pour voir est-ce qu'on peut en laisser tomber quelques-unes, puis est-ce que on peut faire des différences entre les régions où est-ce qu'il y en a beaucoup de cas et les régions où est-ce qu'il y en a beaucoup moins.
La part du masque dans les écoles primaires à partir de cinquième année, vous, quelle est votre position là-dessus, docteur Labbé? Hier, moi, je l'ai vécu hier, mon fils est en cinquième année, il a mis son masque, il n'a pas fait de cas de ça nécessairement, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Comment vous voyez ça, vous?
Mais c'est sûr que, tu sais, comme l'association des pédiatres, notre but était, tu sais, comme que les enfants retournent à l'école. On aurait préféré que le port du masque soit obligatoire seulement au secondaire. Ça a été, tu sais, comme décidé autrement, selon des statistiques qu'on a, tu sais, que les 10 ans et moins, ben, étaient plus asymptomatiques, peut-être transmettaient moins, puis on avait des données qu'à partir de 10 ans, alors là, ils ont décidé ça. Moi, personnellement, j'aurais préféré qu'au primaire, il n'y ait pas de masque. Maintenant, c'est ça, comme je vous disais, il y a des incohérences, il y a des règles qu'on doit, à un moment donné, appliquer, puis des limites. Et là, ça a été décidé ainsi. Alors, on doit faire pour le mieux maintenant que la décision a été prise.
On en a parlé au cours des derniers jours, Jérôme et moi, mais vous êtes très, très bien placé, j'imagine, pour nous confirmer ce fait-là, puis l'importance de ça. À quel point les parents ont un rôle à jouer aussi dans le niveau d'anxiété que leurs enfants peuvent avoir, là, c'est-à-dire qu'on leur transmet notre crainte, puis on oublie souvent qu'ils s'adaptent pas mal plus que nous, là. Si on l'oublie.
Tout à fait. Si ça va bien, ils vont bien, tu sais, comme pour la plupart d'entre eux, là. Il y en a certains, là, que l'anxiété est tellement imprégnée dans eux que c'est intrinsèque à eux, mais pour la plupart, si on les encourage, que ça va bien, qu'on est positif, tu sais, ils vont bien s'adapter. Et c'est pour ça que je pense que la rentrée scolaire, avec ou sans masque, va bien se faire, parce que les enfants sont heureux de se retrouver, puis de se rencontrer entre eux. Alors, j'ai pas beaucoup de crainte là, par rapport à ça. Là. Je pense que là, des fois, là, on veut là, leur porter trop de troubles. Là. C'est pas si pire que ça, mettre un masque.
J'ai hâte de voir la gestion, Dr Labbé. Hier, au Collège français à Longueuil, sur une école sur la rive sud de Montréal, ils ont vidé l'école parce que le père d'un enfant a testé positif. Ça, c'est. On peut-tu mettre ça dans la catégorie des réactions un peu exagérées ou faut quand même.
Oui, ben, en fait, moi, ce que j'ai su, en tout cas dans les réseaux, c'est qu'ils avaient essayé de communiquer avec la santé publique pendant. C'était marqué 5 heures, est-ce que c'est vrai? Bon. Bref, ils savaient pas trop, puis tout ça. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de cafouillage. Au début et encore pour plusieurs semaines et peut-être mois. C'est dommage parce que c'était pas ça la règle vraiment. Là, ça aurait dû être que l'enfant soit retiré et on garde les autres enfants. Et si les autres enfants développent des symptômes, là, à ce moment-là, ils ont du dépistage. Mais c'est sûr que c'est tellement beaucoup de changements pour l'humain que nous sommes qu'il va y avoir du cafouillage là dans et l'expérience des uns va nous montrer qu'est-ce qu'on aurait dû faire puis va apprendre aux autres là, quoi faire si ça arrive de nouveau et ça va arriver de nouveau c'est certain là.
Ouais. Dr Labbé, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
Ben ça fait plaisir. Wow. Bonne journée.
Merci docteur Valérie Labbé qui est pédiatre à l'excellente Hôtel Dieu de Lévis. Je vous rappelle que la manifestation, c'est 11h30 aujourd'hui, place Georges V. C'est organisé par deux jeunes, Maxime Jabin, Tristan Lévesque. Et je voulais un
bravo
peu,
en
oui, je voulais un peu ce qu'ils disent sur l'invitation sur Facebook là. Athlètes, dirigeants sportifs, artistes, parents et amis du monde scolaire, venez vous faire entendre ce 28 août devant le Parlement afin de manifester notre grande déception à l'égard de la récente décision du ministre Roberge. Il dit venez en grand nombre, masque obligatoire, chandail aux couleurs de votre école, respect et pacifisme sont de mise, bravo et distanciation respectée au maximum. Bref, ça va partir à 11h30 de la place Georges V pour culminer au Parlement. Autour de 13h, notre collègue Jonathan Bernard qui va être sur place. Alors évidemment, on aura l'occasion d'avoir des témoignages.
Il y a un auditeur qui nous a écrit au 25226, Joe, concernant la fameuse bulle des classes. Ce qu'il tente de nous expliquer, lui voit une justification de la bulle en nous disant si jamais il y a un cas dans une classe, ben on va exclure les enfants. On va fermer la classe, si vous voulez, au lieu de fermer toute l'école au complet. Il reste quand même que ces enfants-là se promènent dans d'autres bulles aussi. malgré tout ça, une fois qu'on a dit ça, il reste quand même que les enfants ont une vie à l'extérieur de l'école aussi, là. Mais je peux comprendre. Je peux comprendre cet argument-là aussi, mais faut pas qu'on se fasse gérer par la peur. Moi, je retiens, c'est ce que je retiens de l'entrevue. La peur peut pas guider ces décisions-là.
En passant, si vous voulez voir un beau coup d'épée dans l'eau, là, j'ai vu ça sur le site du Journal de Québec ce matin, lettre ouverte du ministre Roberge. Aux parents.
Ah, je l'ai posé.
Oui, c'est une lettre ouverte qui dit, avec le titre, « Je veux que vous sachiez que je vous comprends ». Et quand je dis coup d'épée dans l'eau, là, c'est que j'ai fait le excuse-moi l'anglicisme, j'allais dire le comptage de mots avec le logiciel Word. On arrive à 1007 mots.
Oui.
Tu sais, tout le monde a écrit des chroniques dans le journal. Oui, là, c'est soit 300 ou 500 mots.
350.
Puis à 510 mots, là, m'a dit, t'es mieux d'accrocher ton lectorat rapidement parce que tu vas le perdre.
Exact.
1007 mots, la lettre ouverte du ministre de l'Éducation qui a, entre autres, abordé cette question-là, sport-études. Puis j'insiste, hein, je l'ai mentionné, mais art-études aussi, là. Ceux qui font de l'art dramatique, du théâtre, de la musique. Il y a des gens aussi que c'est très, très, très utile et nécessaire dans leur vie, ces activités.
Lui, si jamais il y a un remaniement éventuellement, j'imagine ça. Comment il va vivre ça, mettons, là, s'il n'y a plus cette responsabilité-là?
C'est-tu quoi, je continue?
Il va peut-être être soulagé.
On y reviendra. Moi, j'aimerais ça qu'on soit plus que 2 ans sans changer de ministre de l'Éducation.
J'avoue. Hey, oui.
Tu sais, la pandémie, il ne l'a pas choisi, là.
Je pense qu'il y en a eu quoi? Ça se peut-tu 25 en 50 ans, dans les 50 dernières années?
Dans les quelques dernières années.
La moyenne, c'est un an et demi, à peu près, depuis 50 ans pour les ministres de l'Éducation.
Voilà, 25-226, si vous voulez réagir, 10h39. Vous écoutez Trudeau-Landry, on s'arrête.